Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le Concile de Trente nous dit que la miséricorde est un des sujets sur lesquels les pasteurs doivent prêcher fréquemment. Dans un premier sermon, je vous ai montré que Dieu est miséricorde, que c'est même une caractéristique de Dieu. Dans un deuxième sermon, je vous ai montré que nous devons être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Notre Seigneur le dit en Saint Luc, chapitre 6, verset 25. Et même s'il ne nous l'avait pas rappelé, cela aurait dû nous paraître évident. Et je voudrais maintenant entrer un peu plus profondément dans les œuvres de miséricorde. La première œuvre, alors vous avez les œuvres de miséricorde corporelles et les spirituelles. Les corporelles se résument principalement à l'aumône. Le Concile de Trente n'en étudie pas d'autre que l'aumône. Et il va même très loin, puisqu'il dit que celui qui n'aurait pas les moyens de faire l'aumône devrait travailler de manière à pouvoir faire l'aumône. C'est un des arguments de saint Augustin à propos des moines. Il y a eu une dispute au début de l'Église. Les moines sont des purs contemplatifs. Est-il convenable qu'ils travaillent de leurs mains, parce que cela les distrait de Dieu? La première réponse que donne saint Augustin, c'est oui, il est convenable que les moines travaillent de leurs mains, car cela leur permet d'exercer l'aumône. La deuxième raison donnée par saint Augustin est évidente et elle est rappelée par le Concile de Trente, à savoir que cela permet d'exercer, d'éviter l'oisiveté. Les œuvres de miséricorde corporelle, donc, se rapportent à l'aumône, mais vous avez toutes les œuvres qui nous demandent, parce que l'argent, finalement, l'argent, ce n'est pas nous. Je me rappelle une fois, oh, je crois que je vous l'ai déjà raconté, il y avait la quête pour ce qu'on appelait à l'époque la pelle de charbon, une pelle pour mettre du charbon dans le poêle de ceux qui avaient froid. Ça ne me plaisait pas beaucoup d'aller faire cette quête. Peut-être étais-je un peu timide également. Et maman me dit, écoute, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien à donner aux pauvres, mais tu as du temps. Alors tu vas aller quêter parce que tu vas consacrer ton temps. Donner l'aumône, finalement, c'est quelque chose d'extérieur à nous. Il est beaucoup plus important, beaucoup plus profitable de nous donner nous-mêmes, de donner du temps, de donner de l'attention, de visiter les pauvres, de visiter les malades. Cela les touche, évidemment, beaucoup plus. Passons aux œuvres de miséricorde spirituelle. La première de toutes, c'est d'instruire les ignorants. Parce que le premier bien pour l'homme, c'est la vérité. C'est quelque chose qui a été très oublié aujourd'hui. Quoi? Parce qu'on veut aller directement à une morale efficace et qu'on ne s'encombre pas de parler de la vérité, ce qui paraît philosophique. Soit plutôt parce que la vérité a perdu aux yeux de nos contemporains toute sa valeur, un peu comme Pilate, qu'est-ce que la vérité, à quoi bon, toutes les religions se valent, non seulement elles ne se valent pas, mais il n'y en a qu'une. Alors et déjà, le mot religion est un mot qui ne peut pas se mettre au pluriel. Or, la vérité nous fixe le but. C'est dans la vérité que nous connaissons le but de notre vie. Et notre vie ne peut avoir aucune énergie, aucune conduite, si nous nous n'avons pas la vérité fondamentale, la connaissance de Dieu, la Sainte Trinité. Et puis après cela, nous allons entrer dans cette sagesse de Dieu, et qui dit sagesse dit vérité. J'avoue que j'en ai un petit peu assez de parler de vérité, et je n'en parle plus désormais. Je parle de la sagesse de Dieu. Pour l'instant, on comprend encore un petit peu. Viendra un temps où même la sagesse de Dieu ne voudra rien dire à nos contemporains. Donc la première miséricorde, c'est la vérité. L'importance de prêcher le catéchisme. N'hésitez pas à faire savoir que vous pouvez enseigner le catéchisme. Et enseignez-le de toutes les manières que vous pouvez. C'est la première de toutes les miséricordes. Il y a une indulgence plénière accordée à ceux qui enseignent le catéchisme pendant une demi-heure. La deuxième miséricorde spirituelle, c'est de donner des bons conseils. Saint Thomas d'Aquin rattache à cette miséricorde la correction fraternelle. Il est évident que dans le désarroi actuel, nous avons à prêcher la vérité à temps et à contre-temps. C'est Saint Paul qui le dit, insta opportune inopportune, à temps et à contre-temps. Et hélas, nous avons à la prêcher même devant les supérieurs, devant nos guides, ceux qui devraient nous guider et nous enseigner. C'est à nous de le rappeler. Je vous rappelle cette phrase de Don Guéranger pour la fête de Saint-Cyril d'Alexandrie, que je vous ai déjà citée, mais qui est importante. Il est des vérités essentielles dont tout chrétien a, du fait même de son titre de chrétien, c'est-à-dire de son baptême, la connaissance nécessaire et la garde obligée. Et lorsqu'elles sont attaquées, point n'est besoin d'un ordre de la hiérarchie pour les défendre. A fortiori, quand elles sont attaquées par la hiérarchie, il n'y a pas à attendre d'ordre. Au contraire, l'ordre nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez miséricordieux. Cela inclut toutes les miséricordes, et c'est pourquoi je vous en fais les détails. La correction fraternelle s'exerce envers les supérieurs. Elle est un devoir. Monseigneur Lefebvre l'a exercé envers les évêques et envers le pape. Et hélas, nous avons été dans une situation où nous avons dû l'exercer. Je ne dis pas « hélas, nous l'avons exercé » car c'est un acte de vertu et nous en sommes très heureux. Mais hélas, nous avons été dans une situation où les supérieurs avaient besoin de cela. Évidemment, cette correction fraternelle, aujourd'hui, est encore moins bien vue par nos contemporains qu'autrefois, parce que, comme il n'y a plus le goût de la vérité, il ne reste plus que l'autorité. Corriger l'autorité est pratiquement considéré aujourd'hui comme un blasphème, comme une atteinte profonde, une subversion, alors qu'en réalité, c'est bien celui qui corrige le supérieur qui remet de l'ordre, car, rappelez-vous bien, il peut y avoir une subversion par les supérieurs. C'est même la subversion la plus fréquente, parce que les inférieurs ont du mal à subvertir une société, ils n'en ont pas les moyens, tandis que les supérieurs ont tous les moyens à leur disposition pour cela. C'est pour ça qu'elle est fréquente, contrairement à ce qu'on dit. Les autres miséricordes, œuvres de miséricorde spirituelle, reprendre ceux qui pêchent, c'est-à-dire que cela va plus loin encore que de donner de bons conseils, et bien que Saint Thomas, enfin je n'ai pas trouvé dans Saint Thomas de développement sur cette œuvre de miséricorde en particulier, mais il est évident que son développement sur la correction fraternelle n'est pas que de donner des conseils, mais également de reprendre les pécheurs. Il y a enfin de pardonner les offenses. Et là, nous avons une œuvre de miséricorde très importante et nous avons beaucoup de citations de l'Écriture sainte. Je voudrais vous lire Saint Luc, chapitre 6. « Vous qui m'écoutez, je dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À celui qui t'enlève ton manteau, n'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui t'enlève ce qui est à toi, ne réclame point. Et ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Aussi bien, les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, lui qui est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Alors, nous sommes dans un monde de haine, mes bien chers frères. La haine est partout. La haine, c'est le démon. Monseigneur Lefebvre nous avait dit qu'en dans les pays, dans les villages païens, ce qui dominait, c'était la haine. Et dans les villages chrétiens, ce qui dominait, c'était la paix et la joie. Et il disait que cela se voyait même sur les visages. Alors nous sommes dans un monde de haine, et Dieu remédie à la haine par la miséricorde, pardonner aux pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les injustices, prier pour les vivants, les morts et ceux qui nous persécutent. Je vous ai peut-être déjà raconté certains très beaux faits de la guerre de Vendée. Les Vendéens se sont bien rendus compte, vous avez eu deux phases dans la lutte contre la Révolution. Vous avez eu la première phase, les Vendéens, et puis la deuxième, les Chouans avec Cadoudal. La première mettait en valeur l'essentiel, l'esprit, l'attachement à Jésus-Christ, le fait qu'il est raisonnable d'être complètement fou, de perdre la vie, de même risquer de se faire cuire dans un four à pain, massacré par les colonnes infernales quand il s'agit de l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième période, c'était Cadoudal. Une fois que ces fondements sont établis, alors il faut mener une guerre réfléchie, posée, efficace, contre les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sont les Vendéens qui nous occupent actuellement, qui nous intéressent, parce que manifestement, la Providence ne nous a pas mis dans la situation de Cadoudal, en situation de pouvoir, car il l'espérait, renverser Napoléon pour rétablir la légitimité. La Providence nous a mis dans la situation des Vendéens, victimes des colonnes infernales. C'était un Vendéen qui avait été fait prisonnier par les Bleus et dans la ville de Saumur. Il était gardé dans le grenier d'une maison tout en haut. Le Bleu qui le gardait le flagellait avec son chapelet, pas le chapelet du Bleu bien sûr, le chapelet du Vendéen. Et il lui disait, tu vas voir, dès que je peux, je vais te tuer. Et puis, on entend du bruit dans la rue, le Bleu se penche à la fenêtre, et c'était les Vendéens, les Blancs, qui venaient d'investir la ville. Vous savez comment cela s'était passé, La Roche-Jacquelin avait pris son chapeau, l'avait envoyé par-dessus les remparts, en disant, qui va me le chercher? Et lui-même, le premier, monte sur les remparts. Et c'est ainsi qu'ils ont investi la ville. C'est un des grands secrets dans toute guerre, qu'elle soit religieuse ou autre, de n'avoir jamais peur. Et donc le Bleu se penche à la fenêtre, et il est tout stupéfait de voir que la situation est renversée et que ses amis ont été défaits par les Blancs. Dans le moment de surprise, il a posé son fusil, c'était un grand fusil de l'époque, et le Vendéen se précipite sur le fusil, mais le Bleu en joue et lui dit maintenant, renversement de situation, c'est pas toi qui vas me descendre, c'est moi qui vais te descendre. Et il le met en joue, Et puis il lui dit, tu vois, mais il y a une différence entre toi et nous. C'est que vous, vous travaillez pour la haine, nous, nous travaillons par le bon Dieu, pour le bon Dieu. Alors tu vois, je vais abaisser mon fusil. Quand je l'aurai abaissé, tu vas te dépêcher de t'en aller et de sortir de cette maison, de peur que je ne me ravise et que finalement je te fasse du mal. Alors il abaisse son fusil, le bleu n'en demande pas plus, déboule l'escalier, sort de la maison. L'histoire arrive aux oreilles de La Roche-Jacquelin, qui rencontre notre Vendéen ainsi libéré, et qui l'embrasse, c'est-à-dire qui le prend dans ses bras, et qui lui dit, « Pour un verre de mon sang, je n'aurais pas voulu que tu fus moins généreux. » Je vous ai déjà raconté le pardon de Delébé. Vous avez le pardon de Bonchamp également, qui est très simple. Il y avait 2000 prisonniers, on allait franchir la Loire, et ces prisonniers encombraient les troupes, enfin toute la population vendéenne. Les soldats proposent ce qui paraissait sage, mais qui ne l'est pas du tout, bien sûr, de se débarrasser des prisonniers qui les encombrent. Et sinon, en plus, ils vont reprendre la lutte contre eux. Bonchamp était mourant à Saint-Florent-en-Vieille. Il apprend cela et il demande la grâce des prisonniers. Il envoie un héros qui proclame « Grâce aux prisonniers, Bonchamp mourant l'ordonne ». Dans quelques cas, on leur rasait les cheveux, on leur disait « si on te reprend, alors à ce moment-là, on te passe par les armes », mais assez souvent, il les laissait partir comme cela. Et puis, je voudrais vous raconter un dernier pardon vendéen, mais je ne sais plus si je ne vous l'ai pas déjà raconté. Écoutez, de toute façon, les enfants qui m'écoutent seront heureux d'entendre l'histoire, et puis s'ils la connaissent déjà, eh bien, ils la raconteront en même temps que moi. C'était après, très nettement après la guerre de Vendée, un vagabond passe dans un village et puis demande l'aumône, il demande du pain. Le Vendéen lui dit, écoute, ça tombe bien, je suis en train de cuire ma fournée et la pâte est prête, je m'apprêtais justement à l'enfourner, alors tu auras du bon pain bien chaud. Le vagabond s'assoit à table et puis, le Vendéen le regarde, le dévisage en lui disant « Mais je te connais, toi. »« Ah non, 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 je ne suis pas d'ici. »« Si, 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 je te connais. »« Non, 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 je suis jamais venu ici, je ne suis pas d'ici. »« Tu n'es peut-être pas d'ici, mais tu es venu ici. » Et il lui montre les deux dents devant qui lui manquaient. Et lui dit « Tu vois ça, c'est toi qui me l'as fait sauter, ces deux dents-là. C'est toi qui me les as fait sauter à la pointe de l'épée. Les colonnes infernales sont venues, tu étais avec elles. » Vous avez massacré toute ma famille devant moi. Comme j'étais tout petit, vous avez eu pitié de moi, mais toi, de la pointe de l'épée, t'as dit, au moins on lui fait sauter les dents. Alors, tu vois, c'est pas le pain que je vais mettre dans le four, c'est toi, c'est tout ce que vous méritez. L'autre se défend en lui disant, mais pardonne-nous, tu ne te rends pas compte. Nous étions fous, nous étions des bêtes. Et l'autre lui dit, vous étiez des bêtes, n'empêche que vous saviez bien ce que vous faisiez. Alors je vais te mettre dans le four. Le vagabond lui dit, écoute, je comprends, c'est mérité, mais tu es chrétien. Alors, avant de me mettre dans le four, nous allons réciter ensemble un Je vous salue Marie, ou un autre père, je ne me rappelle plus l'histoire, précisément. Alors, le Vendéen sait déjà qu'il est vaincu, il se met à genoux, il récite sa prière. Le vagabond en profite pour tirer le loquet de la porte et s'enfuir de toute la vitesse qu'il pouvait. Le bleu, qui était jeune et qui pouvait lui courir après, n'a pas fait un geste pour le retenir. Les histoires de pardon vendéen sont célèbres, et il y en aurait encore de multiples autres à raconter. Bien sûr, il semble ne pas avoir gagné, oh là, j'en suis à plus de 20 minutes, excusez-moi les enfants, ça va être long le sermon. Enfin bon, vous avez eu de belles histoires quand même, et puis je finis. Et ces histoires semblent n'avoir servi à rien. Eh bien non. Il y avait en Vendée, en 1960, à la veille du Concile, 400 séminaristes au séminaire de Luçon. Il y avait 100 séminaristes au séminaire de Chavagnes-en-Payet. Il y avait 3 petits séminaires, dont un pour vocation tardive, dans lequel on entrait à l'âge de 12 ans. Il n'y avait à à la Gaubretière, le bourg, le gros bourg de la Gaubretière, qui doit avoir à peu près 2000 âmes, il y avait en 1962 50 prêtres vivants originaires du bourg, sans compter les religieux et les religieuses. Il n'y avait pas une famille en Vendée qui n'ait pas au moins un prêtre, une religieuse à chaque génération. Mais il est évident que cet état d'esprit profondément chrétien des Vendéens est à l'origine de cette floraison de vocation. Ils ne l'ont pas fait pour en tirer un bénéfice, mais le bon Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité, et telle est la conclusion de ce sermon. Alors, mes bien chers frères, demandez à la Sainte Vierge de vous donner encore plus de générosité, et le bon Dieu ne se laissera pas vaincre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.